Voici le thème de la formation. Là aussi, il faut que vous compreniez. Être formé à l'intercession. C'est déjà une chose. On entend beaucoup les intercesseurs, les intercesseurs, les intercesseurs, j'intercède, je suis intercesseur, je suis intercesseuse. Parfois, je me dis, si tu as un, tu lui dis, c'est quoi l'intercession? Mais l'intercession, non. L'intercession, c'est prier. C'est l'intercession. Mais oui, non. Comme c'est l'intercession, explique-moi alors, c'est quoi vraiment l'intercession? Mais je ne suis pas sûre qu'elle est capable de t'expliquer spirituellement c'est quoi l'intercession. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a jamais enseigné, elle n'a jamais cherché à savoir. On se trompe beaucoup sur les choses. On confond beaucoup les mots. On a l'impression qu'on a compris. Surtout en français. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été traduite. Quand nous lisons le français, nous avons l'impression que nous connaissons même des mots, même c'est un mot français. Mais nous pouvons être surpris si nous voulons vraiment aller chercher, ne serait-ce que dans le dictionnaire, la vraie signification du mot. Nous serons étonnés du sens que ça prend. Et moi, je vais vous inviter, comme une fois, vraiment, à chercher la connaissance. Quand vous entendez un mot, un nouveau mot, prenez même le dictionnaire ouvert pour avoir la vraie définition du mot. Ça va changer votre entendement. Amen. Être formé à l'intercession. C'est un mot qu'il faut qu'on comprenne. Des adorateurs en esprit et en vérité. Adorateurs en esprit et en vérité, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'histoire de la vie. C'est Jésus qui parlait à la Samaritaine. Parce que ce livre-là, c'est quand même un livre puissant. La Samaritaine, les assemblées étaient considérées comme un peuple différent des Juifs. Donc, moi je dis, ce n'étaient pas des païens, parce qu'ils croyaient au Dieu d'Abraham, eux aussi. Mais ils n'avaient pas le même chemin. Et ils étaient devenus presque ennemis. Mais Jésus trouve la Samaritaine au bord de l'eau. Et ce texte, dans votre Bible, disait, est très enrichissant. Jésus parle des discours qu'il peut avoir parmi les gens. Nous nous prions comme ça, nous sommes de l'église, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Nous sommes bien, nous faisons bien, nous ne faisons pas bien. Jésus vient et lui dit, il y a un temps, d'autres prient comme ça, d'autres prient comme ça, vous allez là-bas faire. Mais ce temps-là s'est passé. Dieu se cherche des personnes nouvelles. Dieu se cherche des vrais adorateurs. C'est écrit dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs ou alors des adorateurs saints. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Et quand on lui demande c'est quoi les vrais adorateurs, il dit des adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Au cours de ces 5 séances, nous apprendrons au fur et à mesure c'est quoi en esprit, c'est quoi en vérité. La vérité s'attache à la parole de Dieu. La vérité s'attache aux instructions de Dieu, à ce que la parole de Dieu nous instruit. Et en esprit, parce que Jésus dit, Dieu est esprit. Donc il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous donnons une adoration à Dieu. Tant que nous le faisons avec notre chair, ça ne peut pas monter jusqu'à Dieu. La parole de Dieu nous dit à quel point Dieu aime qu'on l'adore. Mais si ton adoration est de chair et pas d'esprit, ça n'atteindra jamais Dieu. Quand moi je dis ces choses, la première chose, je me dis, mais c'est l'esprit de Dieu. Vraiment, moi, je veux savoir comment on adore en esprit. Parce que je veux que mon adoration touche le cœur de Dieu. Et Jésus dit que Dieu, c'est ces adorateurs-là que Dieu se cherche. Oh, je veux être trouvé par Dieu. Dans mon adoration, je veux être trouvé par Dieu. Donc, je veux savoir ce que ça va me dire. en esprit et en vérité. Et je vous disais que dans l'itinéraire de Jésus-Christ, Jésus marche en esprit, il est esprit, il marche en esprit et il nous fait faire un processus en esprit. Dans son processus de retour. Et le tabernacle en est le ciel. Parce que c'est le temple de l'Éternel. C'est le temple céleste de l'Éternel. Dans la Bible, il nous est décrit physiquement, parce qu'il voulait que les hommes vivent physiquement. Mais Jésus-Christ nous le fait traverser en esprit. Et c'est ça que nous allons étudier. Nous allons chercher à savoir dans les sessions, les trois sessions de samedi et la session de dimanche, nous allons comprendre toutes ces différentes étapes de, de cette marche. Il y a quelque chose que nous devons préciser en revenant sur ce tabernacle. Jésus nous dit une chose. Je suis la porte. Je me tiens à la porte. Je suis la porte des brebis. Et la Bible nous explique, c'est Jean qui le voit dans sa vision, que Jésus-Christ se tient à la porte du tabernacle et nous appelle à entrer dans le tabernacle pour faire le chemin avec lui dans le tabernacle. Et dans ce tabernacle physique, il y a vraiment des étapes. La parole nous dit que moi je fais qu'est-ce qu'elle constate. Dieu a fait descendre son tabernacle et il a mis au milieu du peuple, on peut dire comme ça. Mais seulement le peuple n'avait pas qualité à entrer dans le tabernacle. On est d'accord? Le peuple vivait des relations avec Dieu dehors. Et il n'y avait que ceux qui avaient un qui devait entrer dans le tabernacle, ne serait-ce que dans la cour. Même pour franchir le seuil du tabernacle, il fallait être moins. Ensuite, il y avait un temple. Donc, dans ce temple-là, il y avait deux espaces. Il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Et dans le lieu saint, le sacrificateur et les lévites pouvaient entrer. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qu'ils devaient faire spirituellement pour que les pardons qu'ils venaient demander pour le péché des peuples soient accordés. Et dans le lieu saint, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait venir quand il voulait. C'était Moïse, parce que Dieu l'a établi comme médiateur. Et une fois par an, c'était le sacrificateur. Ce qui me plaît, c'est qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, il dit que parmi les choses qu'il a gagnées à la croix, c'est de faire de nous, dans son royaume, des souverains sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Jésus dit qu'il est venu payer pour nous donner le grade de souverain sacrificateur. C'est une nomination qui est à la croix. C'est que désormais, ce n'est pas seulement une seule personne qui est capable d'aller à la rencontre de Dieu, mais chacun de nous peut aller, devient un sacrificateur du sacerdoce royal, celui qui se fait en Christ. D'accord, ma soeur. Tu es sacrificateur Christ. Sacrificateur royal. Alléluia.
Amen.
Ça signifie que tu fais quoi? Ça signifie?
Ça signifie que tu dois faire la volonté.
Oui. Mais quand la volonté de Dieu, tu ne la connais pas, tu fais comment? C'est ça aussi le problème. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Il a dit que cette chose ne sont pas nos enseignants. On ne la connaît pas. On veut la faire, mais on ne la connaît pas encore. En tant que sacrificateur, ça signifie que tu fais quoi? On vient de parler du tabernacle. Ça veut dire qu'au moins, physiquement, nous devons faire tout ce que le sacrificateur faisait. C'est ça quand Jésus dit qu'il est venu être le souverain sacrificateur. Et que nous sommes des sacrificateurs royaux. Ça veut dire que nous devons au moins apprendre. Si nous comprenons pourquoi telle chose était faite, pourquoi telle autre chose était faite, son sens spirituel, ça signifiait quoi? Et nous maintenant en Jésus-Christ, ça signifie qu'on doit faire quoi? Ça signifie qu'on doit penser comment? Ça signifie qu'on doit... On pourra accomplir le service sacerdotal qui nous permet d'arriver au Père. Et c'est ça l'enrichissement que nous allons faire. C'est ça l'enrichissement que nous allons établir. Ici à être des sacrificateurs en Jésus-Christ notre Seigneur et notre roi pour marcher triomphalement. Qu'il fait de nous une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Si nous n'apprenons pas à être des sacrificateurs en Jésus-Christ, l'ennemi va venir nous amener à être des sacrificateurs. Et comme ça, quand tu es dans ta marche, quand tu es dans ta communion avec Dieu, quand tu es dans ton temps avec l'âme, tu es en culte divin, tu es en opération avec Dieu. Et il y a une façon d'opérer avec Dieu. Et c'est ça qui nous enrichit, et c'est pour ça que nous devenons. C'est le revêtement. Je vous ai dit que Dieu revêt toujours ses enfants pour les envoyer. Dans Éphésiens, Paul nous explique que quand tu veux faire le combat spirituel, quand tu veux t'attaquer au royaume des ténèbres pour faire le combat, il faut te revêtir. Il faut revêtir. Voilà. Il faut revêtir l'armure. C'est pas ce que Paul a dit. Il faut revêtir ton armure. Casque jusqu'aux chaussures. D'accord? Ce n'était pas une vue juste pour faire bien. Il vous explique qu'il faut ta ceinture de vérité, il faut ta cuirasse de justice. Il faut tes chaussures du zèle de la foi. Il faut ton bouclier de foi. Il faut ton casque de salut. Il faut ton arme, ton épée, qui est la parole de Dieu. Et il faut encore ajouter toutes sortes de prières. Il a dit ça, non? Ça, c'est quand tu vas au combat. Donc, c'est quand tu reviens à des chepères et que tu veux déjà aller jusqu'aux extrémités du monde. C'est là où tu croises celui-là qui veut t'empêcher et que tu es obligé de combattre avec. Dieu aime les revêtements. Mais il y a un autre revêtement, c'est celui de son sacrificateur. Alléluia. Ce revêtement-là est un revêtement que nous devons désirer porter sur nous. Je ne parle pas des grosses soutanes que les fiches portent, le casque arrive au sommet. Non, non, je suis spirituel, moi je suis un esprit. Parce qu'il y a dans la Bible, dans l'Exode 29, il a décrit de façon particulière, vraiment, le sacrificateur consacré jusqu'au calice. Dieu nous a invité à rentrer chez vous aujourd'hui et lisez votre Bible. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas leur Bible de façon pleine avec l'Ancien Testament. Lisez les autres 29, vous allez voir comment Dieu a revêtu son sacrificateur. Et chaque de ces étapes-là a un sens pour Dieu. Je veux commencer par l'intérieur. Il faut qu'on porte, il a revêtu le sacrificateur d'un caleçon de lin. Et il a dit pourquoi il le revêt de ce caleçon. C'est pour couvrir sa nudité. Nous savons dans la Bible, nous ne savons pas maintenant, quand Dieu parle de nudité dans la Bible, c'est les choses qui te distinguent. Vous savez que quand Adam et Ève étaient au jardin de l'Éden, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Parce qu'ils étaient qualifiés pour être à côté de Dieu. Mais quand ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu et ils se sont aperçus de leur nudité. Ta nudité, votre nudité, c'est tout ce qui nous disqualifie de la proximité de Dieu, de la chose de Dieu. Si nous sommes disqualifiés de ces choses, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas être avec Dieu. Dieu dit et il définit que pour les sacrificateurs, je vais leur faire un calice. Je vais ouvrir leur nudité. Ça signifie que pour aller vers Dieu, il faut que ta nudité soit complète. Il faut que tu sois qualifié. Gloire à Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous avons Christ. Quand nous confessons Christ, il nous dit, venez à moi et je vous amène. Christ nous qualifie, malgré tous nos péchés, tous nos défauts, parce qu'il les a pris avec lui à la croix. Amen. Mais pour les sacrificateurs, il aurait fallu qu'on prévoie ça. Sinon, ce n'était pas possible. Par la suite, il dit que le sacrificateur, on doit lui pour une robe. Il doit porter une robe qu'il a appelée une robe de louange. La robe de louange du sacrificateur. Et c'est sans cette robe, il ne peut pas être au service de Dieu. C'est la robe du sacrificateur qui qualifie le sacrificateur dans son service, qui le rend capable de faire son service. La robe de louange, c'est quelque chose de particulier. Donc si nous ne sommes pas revêtus de robe de louange dans la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas être capables de servir Dieu. Et il appelait ça une robe de louange. Ça veut dire que notre louange à l'Éternel doit être particulière, spécifique. Il y a une louange que Dieu nous demande d'apporter. Donc même louer avec lui, ce n'est pas comme chacun, c'est comme Dieu. Et sur cette robe de louange, on prévoit de mettre une ceinture. Sur cette ceinture est appelée la ceinture de vérité. Vérité dans ton engagement, vérité dans ta foi, vérité dans ta marche avec lui. Pas d'hypocrisie, pas de double face, entièrement consacré, qu'il a vraiment la première place dans ta vie. C'est ça ta ceinture. C'est la même ceinture que Paul dit de porter quand on va combattre. Parce que quand on n'a pas sa ceinture de vérité, quand on est double jeu avec Dieu, ça dénuit aussi ses devoirs. Et sur cette robe de louange, on porte un pectoral. C'est qu'il a appelé son pectoral de jugement. Ça veut dire qu'il donne le grade d'être un justicier. Il donne le grade de pouvoir accomplir la justice de son royaume. Et c'est un signe de représentation. Ça veut dire qu'il te donne le droit d'être son représentant là où tu vas. Parce que sur ce pectoral de jugement, il avait demandé de mettre des pierres précieuses qui représentaient chaque tribu. Donc le sacrificateur est celui qui, placé devant Dieu, porte sur son cœur, donc dans le fardeau de son cœur, les problèmes de la vie. Dieu dit, tu es leur représentant au devant de moi. Ce sont les fardeaux que Dieu te demande de porter. Il accroche ça sur ton cœur. Et sur ce pectoral de jugement, il met une faute. Sur les fautes, il dit de mettre ici deux pierres qui représentent toutes les tribus dans le peuple. Vous savez, on dit que l'épaule porte les charges. J'ai pris la responsabilité. Je suis responsable. Avant, tu étais représentant. Maintenant, tu es responsable. Tu as la responsabilité des fardeaux de que Dieu te donne. Tu as la responsabilité de ta famille. Tu as la responsabilité de cette chose. Et Dieu te dit, mets-toi devant moi avec cette responsabilité. Donc si tu revêtes vraiment ton faute, les responsabilités que tu portes sur les épaules et que tu as mis devant Dieu, tu auras satisfaction. Amen. Et Dieu continue. Et dit, moi je vais te faire un cadeau. Je vais te donner un don. Je porte sur ta tête, je mets sur ta tête une tiare, c'est-à-dire un chapeau. Et sur ce chapeau, j'ai mis un bijou. Et ce bijou représente la faveur de sainteté. Je dis la faveur de sainteté. C'est-à-dire que quand il décide que nous sommes saints, c'est une faveur qu'il nous accorde. Parce que si nous ne sommes pas déclarés saints, nous ne pourrons même pas arriver à son niveau. Il nous accorde cette faveur. Et en Jésus-Christ, Jésus-Christ vient et au travers de lui, Dieu nous revêt de cette tiare pour que nous puissions accéder. Amen. Et ces sacrificateurs-là à l'époque, ils avaient une espèce de machin là sur la poitrine qu'on appelait le lune et le. Et c'était la justice. Pour voir la justice de Dieu et la vision de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu et la justice de Dieu. Donc il fallait que ce dispositif-là l'éclaire sur ce qu'il fallait faire pour établir la justice de Dieu au milieu du peuple. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit à côté de nous qui vient nous éclairer pour nous donner le discernement de Dieu. Et Dieu qui nous établit au travers de ça pour pouvoir avoir un esprit de jugement. Parce qu'on a dit, nous n'avons pas le droit de juger, mais l'esprit juge en chacun de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit. Mais encore faut-il pouvoir se déployer dans l'esprit. Ça aussi, ça se quémande, ça s'acquiert, ça se construit dans la parole de Dieu. Pour être pleinement habité du Saint-Esprit. Parce que quand on fait semblant d'avoir le Saint-Esprit, parce qu'on parle en langue, entre guillemets, on se rend compte qu'on n'avance pas, qu'on ne fait rien de particulier. Mais si on laisse le Saint-Esprit, si on fait ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit t'habite, la plénitude de l'esprit vient en toi et la clarté, la clairvoyance, la capacité de faire les choses vient par l'esprit qui habite en toi. Donc c'est une quête que nous devons avoir. Et ça permet d'évoluer vraiment. Jusqu'à l'appel de Christ. Donc dans ces, j'allais dire autrement. Le sacrificateur encore, sa robe devait porter les cloches de façon à ce qu'en se faufilant pour entrer dans le lieu très saint, il ne meure pas. Qu'il puisse rester en vie. Mais nous, aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, viens suivre-moi, je te conduis au Père, en esprit et en vérité. Amen. ce revêtement-là, c'est un revêtement spirituel que nous demandons. Eux, ils avaient des revêtements physiques qu'on devait coudre d'une certaine façon et tout. Mais Jésus est venu accomplir des choses meilleures. Jésus ne les change pas. Jésus ne les annule pas. Beaucoup de gens pensent que quand on dit que Jésus est venu accomplir la loi, c'est qu'il a annulé la loi. Non. Il est venu faire que cette loi s'établisse possible pour nous. Mais il les établit de façon meilleure et spirituellement. Ce revêtement-là du sacrificateur, nous avons besoin de ça. Amen. Moi, je remarque que dans ce revêtement-là, tous les autres éléments du revêtement, c'est cadeau de Dieu. Dieu lui fait comme ça. Moïse, donne-leur ça. J'ai décidé qu'ils sont seuls. J'ai fait ceci. J'ai décidé de couvrir leur nudité, faire leur relation. La seule chose qui nous incombe, c'est la qualité de notre robe de louange. Alléluia. Parce que c'est la robe qui nous fait faire le service. Dieu a établi les dispositifs. Sommes-nous capables d'accomplir le service? Sommes-nous capables de marcher jusqu'à lui? Nous allons apprendre à marcher jusqu'à lui. Amen. Revêtu de cela. Donc vraiment, mes frères et sœurs, bien que nous prenons un temps de prière pour demander à Dieu la grâce de ce revêtement en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Que nous prenons le temps de prière pour nous ouvrir à lui et dire, Père, je veux être revêtu. Je veux être revêtu d'un revêtement de sacrificateur royal qui m'est donné en Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu. Je désire cela. Parce que les choses de Dieu, il les a disposées en Christ. Mais vraiment, il faut les chérir, il faut les désirer, il faut les demander, tu demandes de te les donner. Si nous ne demandons pas, si nous n'avons pas envie de ça, si nous n'avons pas besoin de ça, si nous ne disons pas Père, je veux, la plénitude de son esprit ne viendra pas faire l'opération. Amen. La parole est que nous, Dieu voit l'état de notre cœur. Si notre demande est sincère, si notre demande est sincère, il répond. Celui qui me cherche sincèrement, je me laisse. Amen. Qui veut prier pour le revêtement? Lève-nous. Rendez-vous. Louons le Seigneur un peu. Et rentrons dans la phase de prière pour ce revêtement. Amen.
Pour nos mains vers toi. Merci pour ta fidélité, qui est pour toi, papa.